Amis de Radio Silence, bonjour, plutôt bon dimanche et bonne fête des mères parce que nous sommes le 26 mai. Oh, moi, je regarde pas trop la télé ici au Cameroun. Et donc, vu d'ici, les fêtes comme la fête des mères, ça me passe un peu par-dessus la tête. Mais heureusement, j'ai reçu deux ou trois cartes. Et c'est bien, ça me rappelle que je suis une maman, et c'est bien pour une femme d'être maman, être bénie, il faut le reconnaître, les enfants ont grandi, ils sont en France, moi je suis actuellement au Cameroun, donc ça va. Bonne fête à toutes les mamans. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Bock, et ce flash va reparler de la justice. Et surtout, comment on va dire, de la question de la liberté de conscience. Monsieur Netanyahou, je ne sais plus s'il faut l'appeler le Premier ministre d'Israël, parce que ce qu'il a fait est absolument impensable. Alors, il a été invité par la Cour, enfin, je parle du Tribunal pénal international, à s'abstenir, à arrêter de bombarder Rafah à Gaza, et ça ne lui plaît pas, on l'a condamné à cela, et on subodore d'ailleurs qu'il sera aussi, comment on va dire, victime d'un mandat d'arrêt, victime, bon, c'est le mot, un mandat d'arrêt international pour être lancé contre lui. Et ça le révulse, ça le met hors de lui. Notre cher Netanyahou, vous savez, il fait partie de cette élite supra-supérieure qui se pense intouchable, qui se croit Dieu, plus même que Dieu, au point où il se donne la liberté comme ça de raser un territoire, d'organiser un génocide, de bombarder qui il veut, quand il veut, et quand on lui dit ça se passe pas comme ça quand même, parce qu'on est dans un monde supposé être civilisé. Alors le Premier ministre Netanyahou s'est fendu dans ce procureur du Tribunal pénal international. Selon lui, c'est un voyou. Ah, un procureur voyou. Ah, quand même, Israël, un État voyou comme celui-ci qui se permet de qualifier un procureur d'État voyou, c'est vrai. Alors le procureur a touché au sacro-saint. Oh, Netanyahou, le maître du monde. On ne peut pas y toucher, il peut tuer qui il veut. Alors, État voyou qui critique un procureur voyou, soi-disant voyou, ça fait partie, vous savez, de la stratégie des politiques véreux. Qui gèrent le monde, en gros, depuis les années 80. Avant, ils étaient là, mais ils faisaient un peu attention depuis les années 80. Le tournant est pris, ça a été en France, le moment du Grand Reset, où les dirigeants ont été remplacés par une race de gens qui sont arrivés avec une mentalité de voyous, pour pas dire de filous. Et pendant ce temps, et c'est sur le moment où les médias explosent, hein, et où quelqu'un a appelé cela les intellectuels corrompus, parce que ceux qui sont supposés être les journalistes, c'est quand même des gens qui ont fait des petites études, encore que le mot intellectuel n'est pas approprié pour un journaliste. Un journaliste n'est pas intellectuel, un journaliste ne pense pas. Donc, il doit inviter les intellectuels. Enfin, il ne pense pas parce que c'est pas sa formation. Il doit inviter les intellectuels pour penser. Or, ces intellectuels, on ne peut plus les inviter parce qu'il y a un filtre, hein, qui est mis en place par ces gens qui ont été mis en place, ces filtres, ou un filtre, c'est pas ce que j'ai dit, par le Grand Reset, ceux qui ont remplacé les gens d'avant, les politiques d'avant 1968, d'ailleurs, ça a commencé à bouger cette affaire. Et depuis 1981, c'est clair, parce que les médias ont été happés par une politique libérale qui les ont d'abord privatisés. Vous savez, Mitterrand, il a lancé la question des radios privées. C'était très bien, ça paraissait entrer dans le cadre de ce que le peuple demandait, c'est-à-dire une diversification des médias, comme si la pluralité des médias allait entraîner une pluralité des opinions dans le traitement d'informations, mais cela n'a pas été le cas du tout. Au contraire, c'était une poudre aux yeux. Ça commençait par les radios privées et puis ça s'est attaqué à la télévision. Et du coup, depuis, on a la propagande médiatique qui a pris le dessus. Et cette propagande médiatique a toujours curieusement préserver Israël de toute condamnation et on a toujours trouvé des circonstances atténuantes à Israël en disant que cet État avait le droit de se défendre, qu'ils avaient trop souffert sous la Shoah. Vous voyez, il n'y a pas eu de traite négrière, non, on n'en fait pas de concurrence de victimes. Et puis bon, ils avaient un peu, parce que c'était le peuple divin en plus, il y a eu le sacrilège de s'attaquer à ce peuple-là. Donc ils avaient comme ça une triple couverture, une triple ligne de défense, hein, je peux dire cela, qui faisait que, ils étaient inattaquables, inviolables, ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Et la propagande aime ça, elle s'est greffée dessus. On ne sait d'ailleurs pas si cette stratégie consistant à invoquer l'autodéfense en permanence, qui a permis d'installer la propagande, ou si c'est l'inverse, ou si c'est la propagande qui s'est servie de cette stratégie pour renforcer l'emprise d'Israël, le peuple élu, sur le monde. Bon, c'est une tactique, hein, quand un Netanyahou arrive, quelqu'un quand même. Et il faut rentrer dans le passé qui est arrivé aux Nations Unies récemment. Pas lui, il a envoyé quelqu'un. Et ce quelqu'un a déchiré. Je crois qu'on avait demandé peut-être d'un cessez-le-feu ou de s'abstenir. Ils ont déchiré ce protocole aux Nations Unies devant tout le monde, dans une insolence incroyable. Alors, ce monsieur qui va parler d'État voyou, quand on connaît tout ce qu'Israël a fait à Gaza ces derniers temps, c'est une stratégie, procureur voyou, pardon, c'est une stratégie qui, dans la communication, consiste, et même dans la politique, dans la diplomatie, consiste à renvoyer aux autres l'image de vos propres turpitudes. Et ça marche parce que les médias, une fois que, avant, ça marchait, que M. Netanyahou pouvait arriver et dire c'est un procureur voyou, les médias reprenaient tout cela et comme on disait, comme quelqu'un avait dit, même un mensonge repris tout le temps, finit par passer, par être une demi-vérité ou plutôt par être supportable. Donc, c'est fort de café que M. Netanyahou vienne faire cela, mais ça vous renseigne sur quelque chose qui est très important et il faudra faire attention à ça, à la campagne 2024 aux États-Unis. C'est l'inversion des caractères. C'est le renvoi à Trump des turpitudes des démocrates, par exemple. Et donc, l'inversion des caractères, c'est très important. De souligner cela, quand quelqu'un dira une chose, il faudrait faire attention s'il parle de lui-même ou s'il veut parler de l'autre. Donc, Monsieur Netanyahou, vraiment, il devrait comprendre quand même une chose, c'est que il y a le droit. Il y a le droit et il y a ce qu'on va appeler peut-être la politique. Le droit a ses codes et se tient tout seul, qui sont pas dans la, qui sont apolitiques, loin de la politique. Parce que souvent, on a tendance à rabattre le droit sur la politique. Non, le droit est codifié et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a ce schisme très net entre les étudiants des grandes universités aujourd'hui et puis les politiciens. Les politiciens font de la politique avec ça, probablement parce que vous savez, la question du grand remplacement, c'est pas Israël qui l'inaugure. Elle a eu lieu aux États-Unis lorsque le monde est venu remplacer les Indiens. Elle a eu lieu en Australie lorsqu'on a écarté les aborigènes. Bon, ce grand remplacement, ça c'est notoire, moi ailleurs, je ne sais pas trop, je suis pas historienne, mais ça c'est de fait notoire que là-bas on a carrément nettoyé les populations autochtones et on les a remplacées, l'Amérique du Sud aussi. Et ça, Israël, qui veut, je sais pas, se trompe d'époque parce que ces guerres-là, c'était avant. Aujourd'hui, vous pouvez plus arriver dans un pays et puis tout nettoyer comme ça, quand même. Surtout qu'il y a en plus, l'image qui vous montre comment des enfants souffrent et puis il y a l'évolution sociétale qui ne permet plus cela. On ne va pas parler de religion parce que j'ai pensé à un moment donné parler du fait religieux, là, l'opposé fait pour. Non, non, pas par rapport à Israël, qui est pouvoir sur quoi il se fonde, mais laissons de côté la religion parce que ça va nous amener loin. Restons dans le droit positif, comme on dit. Et voyons, Israël est un voyou, on le prouve. Il respecte la souveraineté d'aucun pays en utilisant les méthodes qu'on verra après. Ils sont responsables des crimes de guerre. Ils sont responsables de l'occupation. Ils sont responsables des agressions. Donc, quand vous faites des choses comme celle-ci, vous niez d'abord aux autres leur caractère humain. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Ils disent que les autres, c'est les goyim, je ne sais pas comment on dit ça. C'est des singes. Et puis, eux, ils sont des animaux. Mais ça va à l'encontre de la déclaration des droits de l'homme. Donc restons dans le droit. Ce que les jeunes ont appris à l'école, c'est ce qu'ils revendiquent là. Enfin, ils mettent en œuvre, en pratique. Déclaration des droits de l'homme, article 1. Tous les hommes naissent égaux en droit et naissent libres. C'est ça. Naissent libres et égaux en droit. Bon, alors, tous les hommes. C'est pas seulement aux sorties, on va dire, c'est depuis 1945, d'ailleurs, ça concerne Israël, qui était au cœur déjà de la problématique. Vous pouvez pas vous considérer comme un homme supérieur, enfin, celui qui peut décider de la vie et de la mort des autres hommes. Ça, c'est pas le code. Et on peut pas apprendre aux enfants, aux étudiants, un code de civilisation et pratiquer autre chose. Donc Israël, vraiment dans la ligne religieuse, fait de l'antichrist parce que Christ dit il fait pour la paix, il nous laisse sa paix. Le Christ a laissé les 10 commandements, vous ne tuerez point. Enfin, c'est Moïse qui les a laissés, puisque le Christ vient après, mais Moïse a laissé la loi quand même. Parce que si Israël ne veut pas reconnaître le Christ, ils reconnaissent Moïse, les 10 commandements. Donc tout ce qu'Israël fait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'Israël fait, c'est de l'antéchrist. On peut le prouver par A ou par B. Jésus dit après, celui qui respecte les commandements de mon Père m'aime. Et s'il m'aime, il sera aussi aimé de mon Père. Donc comment vous pouvez vous revendiquer d'être un peuple divin si vous ne respectez pas les 10 commandements? En fait, c'est incroyable. Mais la loi, parce qu'elle doit codifier le vivre ensemble, la loi condamne cela et elle est là justement pour non seulement réparer et prévenir les conflits, parce qu'on sait qu'elle va condamner, mais elle est aussi là pour réparer, demander des réparations. Et Israël ne fait que commencer, hein, parce que là, enfin Israël, Netanyahou, c'est la même chose. Là, on condamne lui et je crois lui, son ministre de la Défense, seront sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ils pleurent déjà, mais il y a des réparations qui vont suivre, hein, parce que derrière, déjà, il y a beaucoup d'États qui ont reconnu l'État palestinien. Il paraît qu'ils en sont déjà 146, les dernières en date étant l'Irlande, l'Espagne, je crois la Norvège. Donc, cette histoire-là, Netanyahou pense qu'il va facilement, comme ça, récupérer Gaza, mais ça sera un peu plus compliqué. En plus, il va être condamné, Israël va être condamné aux réparations. Et je me demande ce qu'on va faire de ce mur-là qui oppresse les Palestiniens. Israël. Toujours est un voyou, on le prouve. Israël, c'est un État qui est fort de ses faiblesses, en fait. Et c'est ça le paradoxe de cet État qui se veut intouchable. Si quelqu'un, il va s'attaquer aux petits pays, aux petits groupuscules comme le Hezbollah, comme le Fatah, comme le Hamas. Mais il n'ira jamais s'attaquer à l'Iran, à l'Irak, en Libye, à la Libye, à la Turquie, à l'Égypte, et même à la Russie, sauf pas personne interposée, la guerre Ukraine-Russie, c'est ça. Et sans les comment on va dire, les Américains et les Britanniques qui ont fourni à Israël tout l'équipement qui permet de contrecarrer les bombes qui arrivent et les missiles, bah, je ne sais pas ce qu'Israël pourrait pas attaquer. Donc Israël, c'est un État faible, mais qui devient fort par l'assistance inconditionnelle des autres. C'est quand même incroyable, hein? C'est incroyable parce que c'est le même pays. Vous avez Israël, c'est une déclaration de guerre permanente au territoire de la sous-région. Il bombarde où il veut, quand il veut, la Syrie. Et maintenant, le président iranien qui est mort, on soupçonne la main d'Israël d'être derrière. Enfin, Israël, l'Amérique, parce que l'Iran a osé envoyer quelques bombes qui ont été d'ailleurs, quelques missiles qui ont été interceptés en Israël, si c'est arrivé, hein. Monsieur Net, enfin, Israël toujours est soupçonné avec l'Amérique ou sans, on ne sait pas, parce qu'ils sont dans une quête hégémonique d'avoir monté les groupuscules terroristes pour gêner la Libye. C'était les guerres de Benghazi, chez Saddam Hussein, bien sûr, et puis là, le Hamas pour s'en servir, mais ça n'a pas été comme il pensait. On est très mal à l'aise de voir que M. Biden soutient donc quelque part, il soutient M. Netanyahou en disant que oui, la décision était exagérée, la décision du tribunal pénal international était peut-être excessive, qu'il fallait peut-être baisser un peu d'un ton, parce que, je ne sais pas, en même temps, il dit, Joe Biden, qu'il ne fournit pas les armes à Netanyahou pour continuer à bombarder Rafah. Bon, lui, il est pour comprendre que, enfin, pour soutenir Netanyahou, et puis les étudiants disent non, 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 on n'accepte pas, on n'accepte pas. Et qu'est-ce que Biden va faire? Honnêtement, c'est pas quoi dire, parce qu'il faut pas utiliser les grands mots, mais ce schisme-là entre les hommes politiques annonce la chute inexorable de M. Joe Biden, quoi qu'il fasse. Et alors, quoi qu'il fasse, il fait par exemple, je sais pas, la filouterie judiciaire. Hein. Il a engagé un procès en justice contre M. Trump, parce que Trump était dans une dynamique ascendante. Il fallait absolument trouver quelque chose qui fasse qu'il arrête de monter comme ça en puissance, parce que c'était tout cuit pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte le procès, comme dirait Kafka. On va juger Trump. De quoi? Vous savez déjà, on va le juger de ce que tous les hommes politiques font dans leur vie, c'est-à-dire une affaire qui est gênante, encore que celle-ci, c'est une petite affaire, hein, c'est une affaire de femmes et tout, on appelle ça les prostituées, on les appelle maintenant les artistes du porno. Les autres ont fait pire parce qu'ils ont caché des vrais délits. D'ailleurs, Monsieur Biden, puisqu'il a lancé cette opération, il veut s'en sortir, il a voulu s'en sortir, il a dit, je sais pas, en même temps, vous voyez, vous êtes en procès, et puis là-bas où vous êtes en procès, le président Biden propose un débat avec Trump, deux ou trois débats, sortis vraiment alors de nulle part, on fait des débats comme ça, hors période. Mais tout ça, c'est parce que lui, il veut s'en sortir. Trump va lui servir de bouée de sauvetage. Mais Trump a dit oui, je suis pour le débat, j'en veux même autant que tu veux, un, deux, trois et tout. Et donc, comment vous pouvez avoir quelqu'un qui est en justice? On lui a demandé de ne pas bouger. Il est assis là-bas, il écoute tout, il doit se défendre. et commencer à proposer des débats, c'est-à-dire que vous avez déjà compris qu'il va être libéré, parce que vous ne pouvez pas proposer des débats si la personne sera condamnée. Mais alors, pourquoi avoir monté tout ce scénario juste pour stopper Trump? On a du mal à comprendre. Mais en même temps, on comprend aussi, parce que quand on regarde, on voit que le procureur, il y a un conflit d'intérêts évident. Le procureur faisait partie de l'administration Joe Biden, quelque part, donc du ministère de la justice. Et il fait partout, lui et le président du tribunal du Parti démocrate, qui les nomme, donc ils ne peuvent pas être indépendants. Et qui plus est, ils font partie de ces démocrates qui veulent absolument stopper Trump. Et ils l'ont dit en disant Get Trump. Bon. Peut-on encore parler ici d'un jugement équitable ou de liberté même du jugé, du juge, dans la mesure où, quand vous êtes affilié à un parti et nommé par eux et happé par le conflit d'intérêts, votre conscience, ça équivaut à zéro. Donc un juge qui n'a pas de conscience ne peut pas avoir de libre arbitre. Il ne peut pas avoir liberté non plus et ça devient assez étonnant. Et j'ai regardé la question de la liberté. J'ai lu chez Berson, là, la conscience qui dit quand même que l'expérience contemporaine de l'acte montre qu'on délibère bien souvent après avoir pris sa résolution et non avant de la prendre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la résolution précède la délibération. Donc, vous avez déjà condamné quelqu'un lorsque vous l'appelez. La délibération, c'est juste pour faire joli, hein, pour qu'on voit que les choses se passent un peu selon les procédures. Quand même, on respecte un peu les codes de procédure parce qu'un procès peut attaquer sur la procédure. Donc, on fait semblant de délibérer. Mais en fait, la résolution est déjà prise avant le procès et avant les délibérations. Et donc, les délibérations, quelque part, ça compte pas beaucoup. Et c'est ainsi que la politique peut corrompre le système judiciaire et le transformer, comme Trump dit, en arme de guerre. Enfin, en arme de, pas seulement de guerre, mais de destruction de tout ce qui est opposition. Ah, c'est pas ce qu'on attendait de ce monde, mais c'est ce qu'on a. Et Joe Biden, pour aller plus loin dans la propagande, parce que Netanyahou, il a fait la sienne, hein, et c'est son ami. Joe Biden, il fait stopper Trump. Enfin, il croit le faire stopper par un procès dont on ne sait même plus quel va être le jugement final. Mais on a compris, d'après la demande des débats de Joe Biden, que M. Trump sera libéré. Mais il fallait juste stopper le momentum, comme ils disent. Parce que ça commençait déjà à faire trop peur, là, il perdait, perdait, perdait. Surtout que pendant ce temps-là, Israël continuait gaiement à bombarder Gaza. Donc le génocide ne pouvait pas avoir lieu et laisser Trump parler. C'était trop, Biden était cuit. Donc il fallait l'arrêter, instrumentalisation de la justice, mais c'est normal, les juges sont plus libres, la justice n'est plus libre. Et quand le parti a déjà pris une résolution, ben, la justice fait semblant de délibérer, mais c'est tout cuit. Et bon, après ça, Joe Biden, il fait, vous savez, les prêts aux étudiants, là, c'est gratos maintenant, on va annuler tout, vous aurez vos prêts, les prêts, ça compte plus, il fait des cadeaux à ses étudiants qui précisément ne sont pas d'accord avec sa façon de faire la guerre, déjà ne sont pas d'accord avec son soutien à Netanyahou. Alors, il le promet, je vais vous arranger l'affaire, voyez un peu, c'est un peu, il brade le bien public, je ne sais pas si on peut appeler le bien public, c'est une politique de la braderie, un peu du, enfin, on va pas qualifier, on laisse tomber. Et là-dessus, il se fait rattraper par une chose qui est que lui-même, il a un dossier. C'est l'affaire de son fils, Hunter Biden, le laptop, hein, qui se dédouble de la corruption présumé du président lui-même, parce que c'est ce laptop qui contient les mails. Alors là, l'affaire aussi ressort, parce que si on dit que M. Trump a voulu acheter le silence de l'artiste porno pour être élu en 2016, parce que si l'affaire sortait, ça faisait scandale, donc on le condamne pour cela, ben alors à ce moment-là, Joe Biden aussi, qui avait quelque chose de plus gros encore, qui était la corruption présumée justement d'une transaction qu'il aurait faite en Ukraine et puis la Chine aussi d'ailleurs. Qu'il lui aurait des choses pour lesquelles il aurait eu beaucoup d'argent et qui font même d'ailleurs peut-être que Joe Biden soit en Ukraine pour effacer force la guerre en Ukraine avec l'OTAN pour effacer. Il fait pas ça tout seul, hein, pour effacer les traces, comme le World Trade Center a été démoli parce qu'il y avait et ils ont effacé les traces. Il y avait un trou budgétaire énorme, énorme, et on cherchait l'argent et on a foutu, on a démoli le bâtiment. Donc, M. Biden est rattrapé, enfin, il peut être rattrapé par ça, mais c'est-à-dire que en 2020, si cette histoire était sortie, il n'aurait jamais été élu parce que c'est quelque chose qui s'annonce comme étant une forme de bombe, quoi. Et là, ça arrive. Comment on fait? C'est encore justice. On condamne l'un qu'il aurait. Ah, en plus, c'est vraiment. Pour Trump, c'est vraiment une affaire hein, avec une artiste porno. Il n'y a rien à cacher. C'est vraiment du petit truc, du menu fréquent. Mais avec ce qui est soupçonné de la part de Biden, c'est de la haute corruption, de la haute trahison. C'est-à-dire, c'est un autre niveau et couverte par le FBI. Et la CIA qui ont empêché Facebook de publier tout ce qui avait trait à ce laptop en le qualifiant de propagande russe. Alors, on est toujours dans la propagande. Voilà. Et il n'y avait pas que tout le monde. Il y avait donc un blackout sur ce dossier, estampillé propagande russe, manipulation russe, il n'y a jamais rien eu. Mais après, depuis, il y a eu des rapports où l'FBI dit oui, ben, on ne refera plus ça, c'est tout, hein. On refera plus ça. Tout le monde est en place, personne n'est condamné, mais on va chercher Trump pour une histoire d'artiste porno. C'est tellement ridicule que bon, le président, enfin le speaker de la House a dit que c'était une parodie de justice. Bon, bien sûr que c'en est une, mais pourquoi ça a pu avoir lieu? Mais il fallait couvrir le génocide, il fallait trouver autre chose pour que le génocide ne se voie pas trop. On n'attendait pas la réaction des étudiants. Vous savez, ils ont acheté tout le monde, les politiques sont comme elles sont, et c'est des gens qui sont dans le nouvel ordre mondial, advienne que pourra. Et d'ailleurs, parmi les scandales qui remontent, le Covid. Le Covid, on a demandé, il y a. Une de ces personnes, enfin un staff qui est passé, qui est entendu à la House, on demande, mais attendez, dites-nous simplement, est-ce que d'avoir reçu le vaccin vous protégeait du Covid? Eh bien non. Est-ce que ça vous empêchait de transmettre le Covid si vous étiez malade? Eh bien non aussi. Donc, on sait depuis que cette histoire-là aussi, ça fait partie. C'est plus comment dire. Ça fait partie des stratégies qui étaient mises en place pour instiller la peur aux électeurs. Et puis, en restant chez vous, ça a occasionné. Enfin, ça a été un catalyseur, hein, un formidable catalyseur pour que les gens votent par email. Enfin, je sais plus cette histoire. C'était du cousu main. Parce que là, vraiment, ceux qui ont organisé le Covid ont participé à l'élection de Joe Biden de manière extrêmement frauduleuse. Et c'est pour ça, Trump appelle Joe Biden escroc. C'était une escroquerie, une grande arnaque organisée par la rétention d'informations, d'une grande information comme celle du laptop du fils de Biden, et plus une pandémie organisée comme ça, sortie de nulle part. Vous voyez, et puis après, on vient aujourd'hui, on veut juger Trump, on va get Trump, get Trump, get Trump, et puis on organise un génocide derrière. Le génocide. Quand on a suivi tout ceci, après donc le Covid, après tout, des choses imaginables et inimaginables que vous connaissez sur la liste des Epstein, sur les trafics, la plaque tournante. Israël même est une plaque tournante, on l'a démontré, du trafic des organes humains. Et on soupçonne, on a, pas on soupçonne, beaucoup de ces organes proviennent des morts palestiniens. On est dans le macabre total. Donc, pour effacer toutes ces traces au trafic de mineurs, on n'en parle même pas, parce qu'il y a aussi l'initiative Clinton, la liste d'Epstein, tout ce que vous entendez sur les sacrifices. Et pourquoi tout ce qui est Arabie Saoudite, Qatar, tout ce monde musulman n'intervient pas? C'est parce qu'ils font partie de ceux qui achetaient les enfants. C'est prouvé. Et via l'initiative Clinton, qui elle-même a cassé le serveur du ministère de la. Enfin, comment on appelle ça? Les affaires étrangères, sans problème. Il n'y a aucun risque, on n'a jamais rien cité. Donc c'est pour ça que le procès de Trump, c'est une vraie farce. Et quand Netanyahou a acculé comme ça pour effacer aussi les traces, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ces gens-là sont d'accord pour raser Gaza. Je ne sais pas pourquoi raser Gaza, mais c'est que Israël est arrivé à un niveau d'impunité qui fait que, pendant qu'on y est, hein, avant que Trump ne revienne, éventuellement, s'il devait revenir, il faut qu'il mette à exécution tout le projet du camp d'Israël, c'est-à-dire que ça inclut la mer, là, la Méditerranée, jusque, je crois même que ça va à une partie de l'Iran. Donc une partie l'Iran, une partie la Turquie, une partie un peu de partout comme ça, dans le grand projet d'Israël. Si vraiment ce projet passe, ça voulait dire que, ils vont plus s'arrêter. Parce que si on permet de détruire tout un territoire, tout un peuple. Oh, c'est pas, les images sont affreuses, des gamins qui pleurent, des gens mutilés, des orphelins, ça saute comme ça. Vous savez, maintenant la guerre, c'est lâche. Il suffit d'appuyer un bouton, d'envoyer la bombe très loin, ça va, ça bombarde. Ça peut, bon, si c'est les petits pays qui subissent, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'intercepter. Il est vrai que la Russie aussi, en ce moment, elle subit ce qu'elle subit. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Et que quelqu'un, un génocidaire comme Netanyahou et un co-génocidaire comme tous ceux qui l'ont accompagné, hein, l'Union européenne, Monsieur Biden, et on a appris récemment l'Inde, franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, tout ça, ils avancent dans leur logique. Ils appellent ça dépopulation, ça c'est Bill Gates qui le dit, mais d'autres s'y disent, de toute façon, pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial, on va éliminer certains et certains territoires. Donc si l'opération Gaza réussit, on est mal barré, on est mal barré. Donc elle va pas réussir, cette opération-là, parce que la jeunesse s'est levée. Et à défaut d'avoir autre chose qui se lève, hein, la jeunesse s'est levée, et la jeunesse aussi ne peut. Il n'y a que la jeunesse pour se lever parce qu'elle n'a rien à perdre. Tous les autres ont beaucoup à perdre. C'est ça le système qui a été. On a pu museler les gens par là. On a acheté leur conscience. Bah, j'ai un emploi, je bouge plus, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ci. Il n'y a plus de conscience révolutionnaire possible parce que la révolution procède d'une forme de liberté de penser, liberté d'agir, liberté de conscience. Il n'y en a plus. Ça, c'est interdit depuis, avec toutes les barrières qui sont autant de censures, de plafonds de verre, comme on dit, pour faire joli. Les gens ont intégré la censure, ils s'auto-censurent eux-mêmes. Et heureusement, il y a les étudiants. Parce qu'ils sont jeunes, ils savent, de toute façon, ils savent déjà que le monde est pourri. Donc, à la fois, ils peuvent se dire, ben, qu'est-ce qu'on a à perdre en fait? On n'a rien à perdre finalement, puisque soit nous rentrons dans la pourriture, soit nous essayons à notre niveau de commencer à bousculer le système là, maintenant, afin qu'il y ait une chance que les gens soient. Vous savez, on ne peut pas dire on est libre de tout le monde, non, de libre, on ne répond de pas des autres, non, mais si on n'a plus de conscience, on n'est plus rien. C'est ça le problème. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flair sur le monde par Elise Mbok. Je vous dis à bientôt.